Quand Jésus nous a trouvés, pardon, je dois nous concentrer juste deux secondes.
Without strength, sinners, ungodly. And then let's get right down to it. Romans the fifth chapter says it.
Okay, Romains 15 dit ennemi. C'est même difficile pour nous de penser qu'un jour on était ennemi de Dieu. Et peut-être que quelqu'un pourrait nous dire ça, on pourrait dire non, je ne suis pas ennemi de Dieu. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que je ne le connais pas, mais non, je ne suis pas un ennemi. Non, puis moi je n'ai pas d'ennemis. Oh, merveilleux. J'aimerais vous dire qu'un jour vous avez été ennemi de Dieu activement. C'est ce que l'Écriture nous dit. Voilà ce qu'il nous a dit à propos de Mephibosheth. Ça parle de la bonté de Dieu. Trois fois dans ce chapitre 9, c'est écrit à propos de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Non, aucun d'entre nous ne pourrait ou ne pourra jamais mériter cela, en fait. Pasteur Stevens nous a vraiment enseigné cette chose-là. Il a percé ces choses-là dans nos cœurs. Ça, c'est donné pour ceux qui ne le méritent pas. La grâce, on ne peut pas la mériter. On ne peut rien faire de notre part pour que Dieu nous donne sa grâce. Mais c'est sa faveur. C'est une faveur imméritée. C'est basé sur qui est Dieu, non pas qui je suis. C'est la grâce de Dieu. On chante, on s'émerveille toujours à propos de la grâce de Dieu. Et on chante même « Ta grâce, toujours, encore, m'émerveille, après tant d'années, après tant d'années d'avoir rencontré cette grâce, on s'émerveille toujours, cette bonté, cette miséricorde, cette faveur de Dieu envers nous qui ne la méritons pas. » C'est ce qui arrive à Mephibosheth. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Saül envers qui je pourrais montrer de la grâce?
Ça
n'aurait pas pu aller mieux pour David à ce moment-là. Il a fait les choses militaires, spirituellement, ça allait bien. Ça, ce qui se passait dans le pays, ça ne s'était jamais fait avant autrement. David était occupé avec les promesses qu'il avait faites à son frère Jonathan, quand Jonathan était encore en vie. Cette alliance qu'il avait faite à Jonathan, j'étendrai ma miséricorde pour toi et ta famille après même ta mort. Et après la mort de Jonathan, David pense à cette promesse. Peut-être que David avait certaines personnes autour de lui qui pourraient lui dire « Ah, tu sais, David, c'est pas si important que ça. Tu sais, tu devrais plutôt penser... Pense plutôt au royaume, comment on peut aller de l'avant. » Et puis David a dit « Non, j'ai fait une promesse. Et je veux garder cette promesse. » Et David pouvait le faire parce que David lui-même était le récipient de la grande grâce de Dieu. On a entendu Pasteur Schaller nous parler de ça, cette ligne de grâce. Quand il vainc Goliath, ou alors quand il a eu adultère avec Bathsheba, David a confessé ça, mais ça ne changeait pas le fait de qui était David. Et Dieu lui disait, ça ne change pas ma façon de te voir. Il y a cette ligne de base que Dieu a envers nous. C'est basé sur le caractère de Dieu, C'est pas basé sur nos performances, sur mes performances. Des fois, on a des bonnes journées, n'est-ce pas? On a quelques belles journées, quelques bonnes journées, mais on a aussi des mauvaises journées. Et Dieu nous dit, bonne journée, mauvaise journée, je veux que tu saches ça. Ma bonté et ma miséricorde seront toujours là pour chaque jour. Et ça te suivra durant toute ta vie. Sa bonté, sa miséricorde nous suivent pour toujours. Et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 23, 6. On aura peut-être, certains, on a eu des mauvaises semaines, des mauvais moments. Peu importe. Peu importe. David avait promis à son ami Jonathan qu'il ne ferait rien comme les autres dynasties avaient fait toujours. Ils exterminaient les personnes qui restaient de la précédente dynastie parce qu'elles étaient un danger. Toutes les personnes des autres dynasties étaient toujours exterminées parce qu'elles pouvaient être un danger pour la dynastie présente. Mais il a dit, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas quand je deviendrai roi. Et pour Mephibosheth, non seulement David a gardé sa promesse, mais il allait tellement au-delà même de ça. On n'a pas juste reçu les promesses de Dieu, mais ce qu'il n'a pas fait au-delà, abondamment, vraiment tellement plus que ce qu'il nous avait promis, il nous donne tellement plus que ce que nous pouvons imaginer ou penser. Rien même de ce que le monde pourrait nous offrir, tellement plus. Dieu l'a fait tellement plus. David aurait pu dépenser ses richesses, son royaume d'une autre façon. Mais voilà le fils de David, Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, et maintenant qu'il dépense ses richesses spirituelles envers nous qui sommes ces pécheurs qui en avons besoin. Quand on partage l'évangile avec les gens autour de nous, s'ils savaient seulement combien riche, combien d'amour Dieu a pour eux. Et ils parlent comme si, non, on n'a pas besoin de ça. Ils veulent peut-être pas paraître comme étant on a besoin ou on ne veut pas mendier des choses. Moi, je m'en moque. Je m'en moque d'avoir besoin. Seigneur, j'ai besoin de tes bénédictions. Qu'est-ce qu'il a fait avec Mephibosheth, David? On lui a dit, oui, Saül a un petit-fils, Jonathan a un fils, c'est Mephibosheth, mais il faut que tu saches, il est handicapé. Il avait 5 ans au moment où il y a eu une bataille qui a eu lieu, et puis du coup il est tombé, et puis il est resté handicapé pour sa vie. Handicapé à cause de sa chute. Est-ce que c'est parce qui nous sommes? On est handicapé à cause de la chute qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Adam est tombé et tous ses descendants sont handicapés depuis lors. Oh, peut-être pas physiquement, on peut marcher, venir, aller, on n'a pas besoin d'aide, mais on est tous handicapés dans notre âme. On n'arrive pas à marcher de façon droite devant Dieu. On ne reçoit pas les choses de la façon correcte. Pardon, j'ai un problème avec le fil. Je n'entends pas toujours. Dieu nous dit, j'ai une nouvelle création toute prête pour toi. Je veux te donner un nouveau départ avec mon fils Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait quand David découvre que Mephibosheth est toujours en vie? Il a cherché Mephibosheth. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que Mephibosheth a dû penser quand il s'est rendu compte que David le cherchait. Et quelqu'un vient, frappe à sa porte. Est-ce que vous êtes Mephibosheth? Il a sûrement eu envie de dire non, non, il habite juste quelques portes plus loin là. Il a dit oui. Ils lui ont dit, ben, okay, cette limousine devant ta porte est pour toi. Le roi veut te voir. Du coup, qu'est-ce qu'il a dû penser, Mephibosheth?
What his grandfather Saul told him about David, then his heart would be filled with fear.
Et du coup, s'il a cru ce que Saül lui a dit à propos de David, alors son cœur devait être plein de crainte. Mais s'il a cru ce que Jonathan lui disait à propos de David, il n'avait aucune crainte dans son cœur. Un aimait David et l'autre se sentait en danger avec David. On ne sait pas ce que Mephibosheth a pu penser. Mais David a cherché à joindre Mephibosheth. Tout ce qu'on sait, c'est que Mephibosheth, à ce moment-là, se cachait. C'est nous, on se cache. On se cachait. Je
ne
sais pas à propos de vous, mais moi, il
n'y
a personne qui a eu besoin de me convaincre que j'étais un pécheur. Certaines personnes disent, oh non, je ne suis pas si mauvais. Non, je pense que je suis meilleur que Hitler. Oh ben, magnifique, on est content de ça. Tu es sur le chemin de la propre justice. Non, non, moi j'avais besoin que personne ne me convainque, je le savais. Déjà, en tant qu'enfant, ma maman avait toujours une pile de magazines qu'elle avait gardées de l'église catholique, et il y avait une grande pile de ces magazines dans la cage d'escalier, et nous on vivait dans le troisième étage de la maison. Et chaque jour, je marchais et je voyais sur le dessus de la pile de magazines, je voyais Noé, l'arche, je voyais les autres gens autour de l'image, autour de l'arche de Noé qui est en train de périr. Et chaque jour, quand je marchais dans l'escalier, je voyais cette image. Et je me disais, juste un petit moment, ça dépend, ça va arriver, je sais, je vais te juger. Moi, je le savais qu'un jour, ça allait m'arriver. J'allais être jugé parce qu'il était le grand juge de l'univers. Dieu était ça pour moi. Et moi, je savais que j'étais pécheur. Il était comme Saint-Nicolas ou le Père Noël qui fait une liste. Il sait qui est gentil et qui est méchant. Et un jour, il allait... Il reprend ça du Père Noël. Un jour, il allait venir en ville et j'allais être là et j'allais juger. Et je devrais aller le voir. Je le savais. Je le savais dans mon cœur. Alors, vous pouvez imaginer combien confus j'étais quand quelqu'un a partagé l'Évangile avec moi et m'a dit « Dieu t'aime, Dieu est mort pour toi. Dieu n'a rien d'autre pour toi que sa grâce, le salut, son pardon, sa joie, sa paix. » Je n'arrivais même pas à comprendre ces choses-là, parce que la seule chose à laquelle je pensais, je vais être jugé. Mephibosheth devait penser de la même manière, certainement. Oh, je vais être jugé, aïe. Parce que tout comme nous, on est sans force. On est des ennemis, on est des pécheurs, on est sans Dieu. Quand Mephibosheth finalement se retrouve devant David, il a dû dire, « Ouais, je sais. » Je suis comme un chien mort, c'est ce que Mephibosheth a dit. C'est ce que devrait se rappeler. Comment Dieu nous a-t-il trouvés? La Bible dit en Éphésiens 2, verset 1, on était morts dans nos péchés. Dieu nous dit, oui, vous étiez morts, mais je vous ai rendu à la vie, et je l'ai fait par ma grâce, par la croix, et même que vous ne le méritiez pas, et que ça reste comme ça pour nous durant toute notre vie. Le meilleur des versets, c'est ce dernier verset dans chapitre 9, le 9-13, 2 Samuel 9-13.
And he was still lame on both his feet. To me, that's the most exciting verse in the whole chapter. You say why? Because nothing really changed.
Il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi.
Is it about Mephibosheth?
De quoi s'agit-il dans cette histoire? C'est Mephibosheth qui devient meilleur? Non. C'est à propos de la promesse de David. Et pour vous et moi, c'est la même chose. Heureusement, des fois, il y a des améliorations et on va de gloire en gloire, de force en force. Et des fois, il y a des petites conversions dans nos vies, des changements. Et heureusement, on n'est pas les mêmes personnes que ceux qu'on était au début parce que la puissance de Dieu nous a changés. Mais on ne peut pas se changer. Si vous ne connaissez pas Christ, il vaut mieux chercher à, je n'ai pas compris de quelle machine, mais une vending machine, plutôt que de penser que vous pouvez vous changer. C'est la puissance de Dieu qui nous change. C'est lui qui le fait. C'est ce qu'il a fait avec Mephibosheth. Vous mangerez à ma table 4 fois dans ce chapitre, c'est ce qu'il lui dit. Je t'adopte, tu seras comme l'un de mes fils, tu mangeras à ma table. Imaginez cela, vous asseoir à la table de David. On peut. Oh, Éphésiens 4 dit, vous êtes en Christ assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est notre position. Et ça ne change jamais. Peu importe une mauvaise décision, un mauvais jour, et pour toujours, on est assis à la table, dans les lieux célestes, et ça ne changera jamais. Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. On est assis à la table de Christ, c'est table de la grâce. Plus tard, en 2 Samuel 21, après certaines situations dont on n'a pas besoin de parler, certains des descendants de Saül ont été choisis pour être mis à mort. Ce n'était pas le choix de David, mais ça arrivera. Mais quand ça s'est fait, l'une des premières choses que David a faites, OK, vous pouvez choisir certains de ses descendants, mais vous ne touchez pas Mephibosheth. C'est ce qu'il a dit, David. Et en fait, dans ce passage, deux hommes s'appelaient Mephibosheth, mais ils savaient qui était le Mephibosheth qui ne voulait pas qu'on le touche. Ne touchez pas ce Mephibosheth-là. La manière que Dieu regarde à nous, c'est la même chose. On devient en Christ, on ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas nous toucher. Le monde veut essayer. Le monde dit non, non, non. Mais Dieu dit non, non, j'ai payé le prix fort. Ne les touchez pas. Ils m'appartiennent. Si vous voulez les toucher, c'est moi que vous devez toucher. Une fois que Mephibosheth faisait partie de la famille de David, il ne pouvait plus être touché. Pourquoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse nouvelle? Plus de condamnation. Plus de condamnation à partir de maintenant et à jamais. Ça, c'est le message de l'Évangile de la grâce. C'est pour ça que ça a la puissance d'attirer les hommes à ce message. C'est ce que Mephibosheth a expérimenté, c'est ce que nous expérimentons. Il n'y a pas de condamnation. Pour qui croit, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est croire. Pensez à cela. Lorsqu'on croit, c'est la seule chose que quand on a cru, en fait on n'a rien fait en vrai. Mais juste une attitude de foi envers tout ce que Dieu dit et qu'il veut me donner dans mon cœur. Il n'y a pas de condamnation une fois après ça. Peut-être que certains m'écoutent ce matin et disent « Ah, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas Mephibosheth. » Non, on l'est. On a tous été handicapés d'une manière ou d'une autre par la chute qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Aucun d'entre nous ne peut marcher de façon juste devant Dieu. On est juste tordu par nature. Mais une fois qu'on a cette nouvelle nature, Et cette ligne là, de base là, de la grâce, comme on l'avait vu, tout change. Et on réalise alors, Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pour certaines personnes, oh, je ne suis pas grand-chose, eh ben, tant mieux, gloire à Dieu, c'est à cause de la grâce. Ça ne peut-être pas beaucoup, mais on peut aussi dire, Dieu n'a pas terminé avec moi. Il y a encore beaucoup d'autres chapitres qui doivent être écrits dans votre vie. De la même manière que David a vu Mephibosheth, Dieu fait ça. Il nous cherche et il veut qu'on s'assoie à sa table pour toujours. Mephibosheth n'a jamais perdu le fait d'être handicapé.
David gave Mephibosheth did not come with a stipulation. Something like this: well, once you are a part of the family, Mephibosheth, once you're in this house, once you're at this table, we expect you to change.
OK, il n'y avait pas quelque chose qui disait une clause au contrat qui dit une fois que tu seras à la table, eh ben fais tout ce que tu peux pour plus être handicapé.
But David not one time said that.
David n'a jamais dit ça, jamais n'a mentionné le handicap. Il lui a pas dit non plus, maintenant que tu es là, tu sais que c'est à cause de la grâce que j'exerce envers toi, que je suis gentil, c'est ma bonté. Mais il n'a jamais prononcé de telles choses. Il lui a dit, moi là maintenant, Mephibosheth, voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Voilà le deal, Mephibosheth. Je t'ai choisi, tu ne m'as pas choisi, mais tu t'assieras à ma table comme l'un de mes fils pour toujours. Et rien ne changera jamais ça. Rien ne te séparera d'être de moi, du fait d'être l'un de mes enfants. En d'autres mots, la promesse n'était pas basée sur Mephibosheth, sur ce qu'il pouvait faire. Et c'est bon à savoir, laissez-moi vous dire pourquoi. Quelque temps plus tard, Absalom, l'un des fils de David, a conspiré contre son père. Et il a tenté d'arracher le royaume à son père. Est-ce que David avait appelé Absalom à être Dieu? Est-ce que Dieu a appelé Absalom à être roi? Non. Mais cette conspiration trouvait tellement d'écho quelque part dans la population que David a été obligé de fuir.
La Bible semble indiquer que si Absalom's men had even found David, that they would have killed him.
Il semblerait que même certains étaient prêts à tuer David. Donc David est obligé de fuir Jérusalem. Et l'histoire devient même plus intéressante encore. David fuit. Et peut-être qu'il a dû penser à ça en regardant ceux qui étaient loyaux envers eux, même durant cette conspiration. Il a peut-être dû se dire, où est Mephibosheth? Mephibosheth n'était pas là.
Ziba,
qui était mentionné de ce verset, dans ce chapitre 9, qui était un des serviteurs, il lui dit, tu sais ce qui est arrivé à propos de Mephibosheth? Non. En fait, il a décidé de rejoindre Absalom. Il a été déloyal envers toi. Il n'était pas resté fidèle. T'imagines, David, après tout ce que tu as fait pour lui, regarde comme il te traite. Voilà ce que Tsiba dit à David à propos de Mephibosheth. Et quand on va plus loin, au chapitre 19, la conspiration est terminée et Dieu réinstalle David dans son royaume. Et de nulle part, qui c'est qui arrive, qui dit boule en milieu? C'est Mephibosheth. Et David lui dit, mais où est-ce que tu as été quand j'ai été obligé de fuir? Où est-ce que tu étais? Et du coup, Mephibosheth lui dit, mais Tsiba était censé m'aider. Mais non, il m'a laissé tomber. Et je suis handicapé, tu sais que je ne pouvais pas y aller tout seul. J'étais coincé là. Oh non, sinon tu sais que j'aurais tellement voulu être avec toi. Personne ne m'a jamais aimé comme toi. Maintenant, tu as les deux côtés de l'histoire, celle de Tsiba et celle de Mephibosheth. Et on peut dire, ah, David, qui c'est que tu vas croire? Et voilà ce que David va dire. Peu importe. Wow. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Peu importe, parce que ça serait important. Ça avait été important si j'avais dit à Mephibosheth, maintenant que tu es assis à ma table, tu dois être fidèle, tu dois rester avec moi. Mais non, je ne lui ai jamais dit ça. Je lui ai dit juste, tu as une place à ma table pour toujours. Ça, c'est ma promesse. Wow. So, c'est pas important ce qu'il a fait.
Wow.
Quelquefois, on se dit, ah, si, ça devrait être important. Mais Mephibosheth, il n'a pas été loyal, il n'a pas été fidèle. Mais quel magnifique exemple de l'exemple de David. Et qu'est-ce que ça nous rappelle à nous? On est juste les récipients de la grande grâce de Dieu. Et quelque chose arrive quand on reçoit, quand on répond à cette grâce. Ça devrait nous rendre, faire de nous de bons gestionnaires de la grâce de Dieu. Lorsque vous recevez la grâce, soyez de bons gestionnaires de la grâce multiple et variée de Dieu. Donnez-la à d'autres. Ne la donnez pas à quelqu'un en mettant des clauses. Non, donnez-la de la même manière que vous l'avez reçue. C'est un don de grâce. Apprenez à être de bons gestionnaires de la grâce multiple et variée de Dieu. Wow. Quand David lui a dit à Mephibosheth, il lui a dit, tu peux t'asseoir à ma table tant que tu seras fidèle, tant que tu es loyal, tant que tu portes du fruit, tant que tu promets de ne pas faire de reproche à ce royaume, à cette dynastie. Non, Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière. Il n'y avait pas de promesses. De telles promesses qui avaient été demandées à Mephibosheth. David a tendu sa grâce envers Mephibosheth, si ça venait du cœur de Dieu. 1 Pierre 5, 10. Il n'est pas le Dieu de certaines grâces. Il est le Dieu qui a satisfait toute chose à la croix. Et maintenant, pour quiconque peut venir, quiconque peut s'approcher. Dieu, on n'a pas à dire, non, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Clairement, si je pense ça, si les gens pensent ça, ils ne savent pas ce que Christ a fait pour eux. Parce que quand on sait ce qu'il a fait pour nous, on n'a pas besoin de dire, oh, mais tu sais, j'ai fait ça ou j'ai pensé ça. On peut être un ancien détenu. On peut avoir un passé tellement lourd et des choses questionnables qu'on a faites. On n'a pas besoin d'amener une liste de ces choses-là, mais on peut venir dans la présence du Dieu de toute grâce et on a une place à sa table et nos vies sont changées, non parce qu'on a besoin, mais parce que sa grâce a le pouvoir de nous changer. Donc les choses changent dans nos vies à cause de sa puissance, mais de sa grâce, pas à cause de ce qui est demandé de nous. Et en fait, pour terminer, ne pensez pas un jour, OK, arriver à la fin et être diplômé de la grâce. Ne pensez pas que vous allez ne plus pécher. Paul a écrit aux Galates, au chapitre 3, et au fait, il leur dit, qui c'est qui vous a ensorcelé? Il leur dit, vous êtes idiots, vous pensez comme des fous. Laissez-moi vous poser une question. Comment est-ce que vous avez commencé cette vie avec Dieu? Est-ce que c'est parce que vous avez reçu les choses, entendu les choses par la foi ou parce que vous avez fait des choses que vous avez méritées? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour mériter la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez mérité le fait d'être placé en Christ? Non. Alors maintenant, est-ce que Maintenant que vous avez commencé de cette manière-là, est-ce que vous allez continuer en mûrissant, en faisant des efforts dans votre chair? Non. Ce qui est de la chair est chair, sera toujours chair et ne pourra être autre chose que de la chair. Notre vie spirituelle, c'est différent. Notre héritage est spirituel. Nos relations avec Dieu, c'est basé sur notre relation spirituelle. Ne soyons pas comme les Galates. Ne perdons pas de vue ce que Dieu a fait pour nous, parce que ce qu'il a fait pour nous, il a promis de continuer à le faire pour nous. Écoutez, je vous promets, basé sur les Écritures, si vous... Il y a une course devant vous. Ça vous attend. Ça ne peut pas être autrement. On ne sera jamais en dehors de Christ. La grâce sera toujours pour nous, pardon, pas la course, la grâce. Il y aura toujours la grâce. La grâce nous a sauvés, la grâce nous enseigne. Et la grâce, un jour, amen, nous présentera sans tache ni ride devant le trône de grâce de Dieu. Et nos vies sont un témoignage de sa gloire, de sa grâce. S'il y avait une autre façon qui serait... qui dirait, oh, pour la gloire de Dieu et de moi. Mais non. Non, ça nous détruit. Il n'y a aucun humain qui n'a jamais vécu et qui ne vivra jamais, qui ne peut gérer la gloire. On n'est pas, notre chair n'a pas été faite pour être glorifiée, mais on est fait pour glorifier Dieu. Et ça, on peut le faire parce que c'est lui qui est venu nous chercher, qui nous a appelés. C'est lui qui nous a adoptés. Il a dit, venez vous asseoir à ma table et vous allez rester pour toujours. Des années plus tard, Mephibosheth est toujours encore assis à la table. Mephibosheth, est-ce que tu marches maintenant? Non, je ne peux toujours pas. Mais qu'est-ce que ça fait pour toi d'être assis là? J'ai appris à connaître le cœur de David comme personne. Alors, quelle est ta vie si tu ne peux pas marcher? C'est quoi? C'est pas ce que je fais. Et c'est toujours pas à propos de ce que je fais. C'est juste sa promesse. Tout dans ma vie, c'est à propos de sa promesse. Et on sait que ses promesses sont oui et amen. Aucune d'elles ne tombera jamais. Aucune d'elles ne tombera à terre. Parce qu'on ne parle pas d'une autre personne qui fait des promesses. On parle de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il l'a dit... Oui. Est-ce qu'il ne le fera pas? Il ne l'accomplira pas? Oui. Il le fait toujours. Pas une parole de Dieu ne tombera jamais. Vous savez ce que ça fait? Ça nous donne la sécurité. Ça nous rappelle que peu importe notre comportement, peu importe les choses, les péchés qu'on a, avec lesquels on doit gérer, Dieu nous a acceptés à sa table, et ça ne changera jamais. Amen. Prions ensemble.
Father, we thank you.
Père, on te remercie.
It's no wonder why the Bible calls you the God of all
grace. C'est pas étonnant que Dieu t'appelle, que la parole dit que tu es le Dieu de toute grâce, le Père de toute miséricorde, le Dieu de toute espérance. Tes compassions ne faillissent jamais. Elles sont là chaque matin.
La
plus grande erreur qu'aucun de nous ne pourrait faire, ce serait de vivre nos vies sans connaître ta bonté, ta gentillesse. Tu es celui qui est le plus gentil qu'on pourra jamais connaître. Tu es bon. Et ta grâce nous émerveille toujours. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas fait confiance à Dieu de façon personnelle, oh, il veut te connaître. Il t'appelle. Peu importe ce que tu as fait, où tu as été, ce que tu es devenu. Il a un siège à sa table pour toi. Viens vers lui. Dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur. Purifie-moi. Donne-moi un nouveau commencement. J'ai besoin d'un sauveur. Et il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de toi. Oh, sauve-moi. Si vous avez dit cette prière ce matin, levez votre main rapidement. Est-ce que quelqu'un peut lever là et mettez-la par terre? Est-ce qu'il y a une autre? Descendez votre main. Seigneur, merci. On te remercie pour le corps de Christ, pour cette église. Merci pour ta grâce. En ton nom, amen. Excusez-moi, j'ai essayé de faire au mieux. J'avais des problèmes avec le câble, du coup, j'entends pas toujours. Je suis venue en cours de route un peu, donc j'espère quand même que ça a pu vous bénir et vous encourager, ma traduction. Et puis que Dieu vous bénisse et vous donne un bon dimanche.
Let's all stand. Unforgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit lives within me. Died and rose again. Amazing love, how can it be if you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor.